qu'on s'intéresse à l'histoire d'un homme, et je vous invite à faire un bond en arrière avec moi de quelques millénaires, David, cette grande figure de la Bible. J'aimerais qu'on s'intéresse à un des épisodes de sa vie. Il nous est question de David un jour qui sera chassé du trône parce que son fils a décidé justement de prendre le trône. Et on retrouve cette histoire dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 18, verset 9. 2 Samuel, chapitre 18, verset 9. On fera une assez longue lecture. De Samuel, chapitre 18, verset 9. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches, entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu ? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place ? Je t'aurais donné 10 sicles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 sicles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Ittaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'avais attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab, entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. Verset 31, aussitôt arriva Couchi et il dit, que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Le roi dit à Couchi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Couchi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ? Absalom, mon fils !» On vint dire à Joab, « Voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. » Et la victoire, ce jour-là, fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour, le peuple entendait dire, « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils !» Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie et celle de tes fils, de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef, ni serviteur, et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous soyons tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors, et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un seul homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici, le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Amen. On s'arrêtera là. Voici donc une bataille comme il pouvait en avoir à l'époque. David, qui était roi, va connaître une rébellion il va connaître une conjuration de la part de son propre fils. Imaginez-vous, déjà, ce n'est pas évident de se faire trahir. Ce n'est pas évident de subir une rébellion. Mais lorsque ça vient de nos proches, lorsque ça vient des gens les plus proches de nous, en l'occurrence ici, c'était son propre fils, eh bien, ça fait encore plus mal. Un véritable coup d'État qu'il va subir avec la complicité des plus hauts dignitaires du royaume. La Bible parle même d'un homme qui était conseiller de David. Il s'appelait Achitophel. Achitophel, ce n'était pas monsieur tout le monde. Achitophel, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Achitophel, c'était un homme qui était puissant en conseil. Quand Achitophel conseillait quelqu'un, la Bible dit, et c'est marqué dans la Bible ce que je vous dis, c'était comme si Dieu lui-même avait conseillé quelqu'un. Il y avait une telle autorité divine dans ses conseils que Achitophel, à lui seul, pouvait déterminer le camp de la victoire. Et on voit, vous lirez les versets avant, Achitophel, même Achitophel, décida de trahir David. Il passera aux côtés d'Absalom. Et la Bible dit la conjuration devint puissante. David se voit obligé de fuir. Il est chassé du trône. Absalom règne maintenant. Mais comme c'est souvent le cas, tant que l'ancien roi subsiste, on pourrait dire tant que l'ancien dirigeant ou l'ancien président, il y a dans certains pays du monde aujourd'hui encore ce même principe qui existe. C'est assez fréquent dans les pays d'Afrique, lorsqu'il y a un coup d'État. Tant que l'ancien roi subsiste, il y a toujours ce risque eh bien, qu'il revienne et qu'il reprenne le pouvoir. Bien qu'Absalom soit roi, c'était lui le roi, le nouveau roi, bien qu'il soit devenu maître de Jérusalem, bien qu'il habitait même le palais royal, eh bien, ça ne lui suffisait pas. Il fallait absolument que David meure, parce que tant que David était vivant, Absalom n'était qu'un roi de pacotir. C'est dans ce cadre que s'engage cette bataille que nous avons lue entre l'ancien roi David et le nouveau roi Absalom. Mais la première chose que j'aimerais dire cet après-midi, que nous voyons en tout cas, c'est que David a été détrôné, il a été chassé de son trône. Et ça, c'est un peu notre histoire. C'est un peu l'histoire de l'humanité. C'est ton histoire. Peut-être que tu ne la connais pas encore, mais c'est ton histoire. Je ne te connais pas non plus, mais c'est certainement ton histoire. Parce que l'humanité a un tronc commun. Et c'est notre histoire à tous. À savoir que la Bible dit que Dieu nous a créés, lorsqu'il a créé l'homme, c'était avec une intention précise. C'était afin que l'homme domine. Et la Bible dit que Dieu parlera, il dira, mais dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur terre. Et le psaume 8, voilà ce que le psaume 8 dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main, tu as tout mis sous ses pieds. Donc l'homme était destiné à dominer. C'était pas seulement une domination physique sur la nature, sur les animaux, sur les poissons, non. C'était aussi et surtout une domination morale et spirituelle. À savoir que l'homme devait être maître du monde extérieur qui l'entoure, mais il devait être aussi maître du monde intérieur. Il devait être maître de son intérieur. Il devait être maître de sa vie intérieure. Aucune passion, aucun péché, aucune addiction, aucune émotion ne dominait sur lui. Il était véritablement celui qui dominait. Dieu était avec lui et pour cela, l'homme, il dominait, il jouissait de cette position élevée auprès de Dieu. Mais à l'instar de David, il perdra cette domination. Désormais, c'est lui qui est dominé. Et on le voit aujourd'hui, l'homme est dominé. L'homme, il est capable de savoir beaucoup de choses. Il est capable d'accumuler des diplômes. On sait qu'aujourd'hui, le drapeau américain flotte sur la Lune, mais n'empêche que l'homme est dominé. Les rapports sont inversés. L'homme est dominé par ses passions. L'homme est dominé par toutes sortes de choses. On revendique des choses par-ci, on revendique des choses par-là, en disant, mais on a le droit de vivre comme on veut. Mais ce n'est pas à toi de définir ce qui est bien ou mal. Ça, c'est Dieu qui s'en est occupé depuis le début. Et lorsque Dieu dit c'est péché, c'est péché. Aujourd'hui, l'homme est dominé par ses passions. Il est dominé par ses addictions. On le voit d'ailleurs. Tous ceux qui, le 1er janvier, prennent des résolutions en disant « Ah, c'est fini, j'arrête de fumer !» Et puis, ça dure 3 jours. Et puis après, on reprend encore. Le petit bout de cigarette de quelques centimètres qui nous tient esclaves. L'homme est esclave de ses addictions. Il est dominé par ses passions. Il est dominé par ses émotions. Il est dominé par la dépression, la maladie du siècle. Il est dominé par des craintes. Il est dominé par des angoisses. Il est surtout dominé par le péché. Le péché dans la vie de l'homme qui l'assiège littéralement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme domine quand c'est Dieu qui règne sur son cœur. Et oui, Dieu avait prévu les choses comme ça. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il y avait nos ancêtres, Adam et Ève, ils étaient les rois. Pourquoi ? Parce que Dieu était roi dans leur cœur. L'homme domine quand Dieu règne sur son cœur. Cette domination, elle s'inscrit toujours dans le cadre d'une obéissance totale à la parole de Dieu. Toujours dans le cadre d'une obéissance à Dieu. Ça ne se négocie pas l'obéissance à la parole de Dieu. Quand l'homme est dépendant de Dieu, eh bien, il domine. Mais dès qu'il est indépendant, eh bien, il devient dominé. Il est dominé par toutes ces choses que j'ai citées. Souvent, les gens nous disent, mais oui, votre Dieu, c'est bon, ça c'est pour les mamies, ça. Hein? C'est pour les gens qui sont faibles. C'est pour les gens qui sont sans force. C'est pour les gens qui ne réfléchissent pas trop. Votre Dieu, j'en veux pas. Jésus, j'en veux pas. L'Évangile, j'en veux pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils rejettent la seule et unique personne qui est capable de les mettre au-dessus de leurs craintes, de les mettre au-dessus de leurs angoisses, de les mettre au-dessus de leurs passions, de leurs péchés, de leurs addictions, de toutes ces choses qui dominent l'homme. Peut-être que pendant que je parle, vous êtes là cet après-midi et voilà, vous êtes en train de, votre esprit est en train de scanner votre vie et votre esprit, votre conscience vous montre des choses qui dominent dans votre vie, qui dominent dans votre cœur. J'aimerais te dire, tu n'es pas obligé d'être dominé cet après-midi. Parce que Dieu nous a fourni le moyen d'être libre. C'est Jésus-Christ. C'est la seule et unique personne qui soit capable de te libérer de cette domination que tu subis dans ta vie. Son nom, c'est Jésus. Si tu ne veux pas de Jésus, eh bien, tu seras toujours dominé par ces choses. Tu continueras toujours à dire, c'est plus fort que moi. Je ne pouvais m'empêcher d'eux. On entend souvent ça. Tu n'es pas obligé de dire ça. Parce que Jésus, eh bien, il est la garantie de la liberté que Dieu veut te donner. David régnait, il dominait sur Israël jusqu'à ce qu'il désobéisse à Dieu. Vous connaissez un peu l'histoire. Il va commettre l'adultère avec Bathsheba, tout comme l'homme aussi dominait jusqu'au moment où il va désobéir à Dieu. La Bible nous dit que l'homme était dans le jardin d'Éden. Il jouissait d'une vie incroyable. Il n'y a aucun confort aujourd'hui à cette ère moderne. Il n'y a aucun confort, et je pèse mes mots, qui peut valoir le confort du jardin d'Éden. L'homme était bien. Il était avec les animaux, il n'y avait pas de problème écologique, il n'y avait pas de soucis de couple, il n'y avait pas de dépression, il n'y avait pas de maladie, tout était parfait. Dieu lui-même, il venait le soir dans le jardin, il s'entretenait avec l'homme, il parlait. Et malheureusement, l'homme va désobéir à Dieu. Et depuis ce jour, nous subissons l'assaut de toutes sortes de forces extérieures comme intérieures. On voit que voilà, quelque chose est déréglé. Comme David, l'homme est poursuivi. Il est pris en chasse également. Pris en chasse moralement, pris en chasse spirituellement. Il se sent sans cesse en train de courir en fuite contre lui-même, contre sa nature. Très souvent, il est rattrapé d'ailleurs. Il est vaincu. Il subit la tentation. Il succombe à la tentation et il est vaincu. Désormais, les rapports sont inversés. L'homme qui était en haut, maintenant, il est en bas. Il est affaibli comme David. David est complètement affaibli. Le roi, imaginez, le roi David, c'est pas n'importe qui. La Bible nous montre les récits extraordinaires de cet homme. C'était un véritable héros. Maintenant, il est en fuite. Il est dans la crainte constamment. Il est dans des angoisses. Il ne dort pas la nuit. Vous voyez, ça, c'est pas compliqué. Lorsqu'il n'y a pas Dieu quelque part, eh bien, c'est les craintes qui dominent. C'est les angoisses qui dominent. On n'arrive plus à dormir, on n'a pas la paix. Si vous voulez la preuve que Dieu n'est pas dans notre monde, malgré les religions, eh bien la preuve, elle est là. Essayez de voir s'il y a la paix dans le monde. Essayez de voir si les gens, s'il y a des angoisses. On voit que plus que jamais, les gens sont angoissés avec ce contexte particulier du terrorisme. Les gens, ils ont peur, ils sont dans toutes sortes de craintes. Ça, c'est la preuve que Dieu n'est pas là. Quand Dieu est quelque part, il n'y a pas de crainte. Quand Dieu est quelque part, il n'y a pas d'angoisse. Quand Dieu est quelque part, eh bien, il y a la foi en Dieu. On a confiance en lui. On s'attend à lui. On sait qu'il va eh bien, nous garder. David est dans la crainte, il est dans des angoisses pas possibles. Rien à voir avec la sérénité qu'il dégageait quand il était dans le palais royal. Maintenant, il est comme un animal, il fuit sans cesse. Dans ces conditions, comment retrouver la position initiale perdue? Parce que quand même, je signale que David était roi non seulement, mais il n'était pas roi n'importe où, il était roi à Jérusalem. Et dans la parole de Dieu, Jérusalem, c'est un lieu particulier. Ça représente la présence de Dieu. À savoir qu'à partir du moment où David s'est enfui, eh bien, il est allé aussi loin de la présence de Dieu. De la même façon que l'homme est aujourd'hui loin de la présence de Dieu. Ah, c'est sûr qu'on a nos religions. Hein, on parle de quelqu'un, on parle de Dieu à quelqu'un, il va vous dire, ah, mais moi j'ai ma religion, moi je suis ceci, moi je suis cela. Mais ça ne l'empêche pas de vivre dans le péché jusqu'au cou. Cet après-midi, il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de savoir réellement où ton cœur en est avec Dieu. Si ton cœur a été purifié par le sang de Jésus, il s'agit de savoir où tu passeras l'éternité. Sais-tu un jour que tu vas mourir? Ou penses-tu que ça arrive qu'aux autres? Ça arrive qu'à tes voisins, qu'à tes collègues? Mais non, ça va t'arriver aussi. Et après, tu iras où? Est-ce que tu y penses déjà? Toi qui persévères dans le mal, toi qui justifies ton péché, est-ce que tu penses à l'instant de ta mort? C'est maintenant qu'il faut y penser. Après, il sera trop tard. Cet après-midi, c'est un cadre idéal, un cadre parfait pour penser, pour parler de ces choses avec le Seigneur. Ces choses dont on ne parle jamais dans la vie courante, ni au boulot, ni à la fac, ni nulle part ailleurs. Il n'y a qu'un espace, des espaces comme ceci, pour parler de la vie éternelle et de notre relation avec Dieu. Je pense que cet après-midi, il faut jouer carte sur table. Il faut être honnête. Il ne faut pas venir avec des apparences devant le Seigneur. Il connaît ton cœur déjà. Ça ne sert à rien d'apporter tes justifications en disant « Oui, mais c'est parce que ceci, mais j'ai le droit, et puis voilà. » Non ! Le péché, eh bien, sera un jour jugé. S'il n'est pas pardonné, en tout cas, il sera jugé. Et le temps du pardon, c'est maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut que tu viennes au Seigneur. David, il régnait à Jérusalem. Maintenant, il est en fuite, il est loin de la présence de Dieu. Ce qui n'est pas rien, quand même. On peut donc se poser cette question, mais comment retrouver la position initiale? Y a-t-il seulement une possibilité pour l'homme de retrouver cette condition? Et si oui, comment? Parce que finalement, qu'est-ce qui est mieux? D'être dominé par les passions, par le péché, tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Finalement, ces choses qui nous rendent esclaves, ou d'être dominé, comment dire, de laisser Jésus régner dans notre cœur. Lorsque Jésus règne dans notre cœur, ce n'est pas pour nous rendre esclaves, au contraire. Par contre, lorsque ce sont ces choses que j'ai citées qui règnent en nous, eh bien, nous sommes esclaves. Comment il faut faire alors? Comment être à nouveau au-dessus de ces craintes, de ces angoisses, de ces addictions? Comment être libéré de toutes ces choses? Est-ce que selon vous, la religion suffit? Est-ce que la religion suffit pour être libéré? Non. Non. Vous savez très bien avec moi que dans notre pays, par notre devise, liberté, égalité, fraternité, les 60 millions de Français que nous sommes pensent être libres. Parce qu'on a dit liberté, égalité, fraternité, on est libre? Non. Non. Au contraire. Il y a un esclavage qui est là. Et il faut véritablement une action divine. Dans ce texte, nous voyons le moyen par lequel David va essayer de retrouver sa position initiale. Dans ce texte, et c'est une évidence, la seule et unique possibilité pour David de retrouver sa position initiale était de faire disparaître celui qui dominait, de faire disparaître celui qui régnait, de supprimer celui qui l'empêchait d'être à Jérusalem. La seule possibilité était de tuer Absalom. C'était la seule et unique possibilité. De la même façon que si l'homme veut retrouver sa place initiale auprès de Dieu, s'il veut être à nouveau en haut, au-dessus de tout ce que j'ai cité tout à l'heure, il faut qu'il décide de mettre un terme à son péché. Et je te dis de la part de Dieu cet après-midi, il faut que tu mettes un terme à ton péché. Il faut que tu mettes à mort ton péché. Il faut que tu le fasses disparaître, que tu le supprimes comme Absalom a été liquidé. Excusez-moi du terme. Il faut que exactement la même chose se produise dans ta vie spirituellement. C'est une évidence. Ce qui domine sur toi doit disparaître. Ce qui t'empêche d'être libre doit disparaître pour que tu sois réellement libre. Jésus a dit, mais Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Certes, tu n'as peut-être pas les menottes au poignet, tu n'es pas derrière les barreaux, mais est-ce que tu es réellement libre? Parce que Jésus dit réellement libre. À savoir qu'il y a plusieurs niveaux de liberté. Il y a plusieurs niveaux d'esclavage aussi. Est-ce que tu es réellement libre? Ou alors est-ce que ta conscience te montre des points dans ta vie où tu serais peut-être esclave? C'est que tu n'es pas libre, c'est que tu as besoin de Jésus. Et il veut maintenant t'apporter la liberté, il veut entrer dans ton cœur. Il veut absolument que ces choses soient réglées cet après-midi. C'est simple, c'est une évidence. Mais ça, David ne l'avait pas compris. Certes, il voulait de tout son cœur retrouver son trône. Certes, il désirait de tout son cœur récupérer son trône, mais sans avoir à tuer Absalom. Ah, il ne voulait surtout pas toucher au jeune Absalom. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Le trône de ton cœur ne peut pas être partagé. Si c'est le péché qui règne, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es esclave. Par contre, si c'est Jésus qui règne, tu es délivré du péché. Tu ne peux pas avoir deux rois qui règnent en même temps. Ce n'est pas possible. Or, David, il voulait retourner à Jérusalem, mais il ne voulait surtout pas tuer Absalom. Il ne voulait surtout pas lui faire de mal. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu veux retourner dans la présence de Dieu, il te faut tuer Absalom. Absalom, ici, bien sûr, vous l'aurez compris, représente le péché qui domine sur l'homme. Ce péché qui règne sur nous depuis l'épisode d'Adam. On a beau le nier, on a beau dire, ouais, ça n'existe pas. Le fait, il est là, c'est que voilà, les hommes sont pécheurs. Voilà, tous les jours, on le voit dans nos actualités. Vous allumez la télé le soir, voilà, vous avez un catalogue. La preuve que l'homme est un pécheur, où qu'il soit d'ailleurs, sous quelques cieux qu'il vive, dans quelques pays qu'il soit, on le voit, l'homme est pécheur. C'est sa nature profonde. La Bible dit le monde entier gît sous la puissance du malin. La puissance du diable, c'est le péché. Donc David, il voulait récupérer son trône, mais sans avoir à tuer Absalom. Un peu comme si je disais, oui, mais je vais faire des omelettes sans casser les œufs. Vous avez vu ça où, ça? C'est, hein? Je ne sais pas, les dames, je ne sais pas, est-ce que c'est possible de faire des omelettes sans casser les œufs? Ce n'est pas possible. Eh bien, le même principe existe. Vous savez, dans la vie, il y a des choses comme ça. Soit c'est blanc, soit c'est noir. On ne peut pas concilier les deux. Tant qu'Absalom sera vivant, eh bien, il chercherait toujours à régner. Et j'aimerais te dire que tant que le péché vit dans ton cœur, il essaiera toujours de prendre le contrôle de ta vie. Ça, David, il avait de la peine à le comprendre. Pourtant, c'est simple. Pourtant, c'est une évidence. Mais il avait de la peine à comprendre. On peut se poser la question, mais pourquoi donc David à mobiliser toute cette troupe, toute cette armée, pour ne pas tuer Absalom? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas tuer Absalom? Eh bien, la première réponse, elle est évidente. David ne voulait pas tuer Absalom parce que Absalom avait des liens particuliers avec lui. C'était quand même son fils. Et oui, c'était son fils. Il y avait une relation affective. David avait vu le petit Absalom. Il était tout mignon, tout petit. Il avait grandi. Il avait suivi tous les âges de son développement. Il se rappelait de ce petit garçon qu'il tenait dans les bras. Aujourd'hui, on vous parle des péchés mignons. Les petits péchés qu'on commet ça et là. Croyez qu'il y a un péché mignon? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si vraiment le péché mène à la mort, le péché est comparable à un poison. À savoir que si vous prenez, je sais pas moi, une goutte d'arsenic, que vous preniez une goutte, que vous preniez un seau entier, eh bien c'est pareil. C'est la mort. Le péché, c'est la mort. Et parce que David avait vu son enfant grandir, il le connaissait, il savait comment était Absalom, il avait de la peine. Il disait, mais c'est quand même mon fils, je vais quand même pas tuer mon fils, malgré tout ce qu'Absalom lui a fait. Malgré tout ce qu'Absalom lui a fait, et Absalom lui en a fait des choses, eh bien, il continue et persévère. Il mobilise tout le monde. Il a les meilleurs généraux qu'il faut, Abishai, Joab et tout ça. Les meilleurs atouts peut-être aussi sont dans ta vie pour mettre un terme à ce péché. tu as la parole de Dieu toutes les semaines ici, tu as les pasteurs, tu as la parole que tu peux lire la Bible chez toi, tu peux prier directement, tu as des frères et sœurs qui peuvent t'aider. Tu as les meilleurs atouts pour mettre un terme également à ton péché. Mais comme David, tu ne cesses de dire, mais doucement au jeune Absalom. Ah, doucement au jeune Absalom. Allez-y doucement. Combattez, mais surtout épargnez-le. Faites la guerre, mais surtout laissez-le vivre. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire la guerre, de mobiliser tout ce monde, si c'est pour laisser vivre ton ennemi? Si c'est pour laisser vivre Absalom, à quoi ça sert de le laisser vivre à ce moment-là? Voyez-vous, il y avait ce lien affectif. Et peut-être que, pendant que je parle, il y a aussi un lien affectif avec ton péché. Un péché que tu chéris, un péché que tu aimes. Il est là et tu voudrais aussi être au-dessus de ce péché. Tu voudrais dominer sur lui, mais tu ne veux surtout pas le mettre à mort. Il faut que tu décides aujourd'hui de le mettre à mort. Encore une fois, le Seigneur est à tes côtés. Il est prêt à t'aider. Il est prêt à faire ce qu'il faut pour que tu puisses t'en sortir. Vous voulez sortir de la domination du péché, mais vous ne voulez pas lui tourner le dos complètement. Ça, ce n'est pas possible. Il faut cette force de caractère, cette détermination, j'ai envie de dire, pour mettre un terme au règne du péché dans ta vie. Une bonne fois pour toutes, mettre un terme à ce péché dans ta vie. Je comprends bien que peut-être ça fait si longtemps que tu vis avec, un peu comme David et Absalom, ils se connaissaient depuis si longtemps, que tu as un peu de la peine. Mais il faut y mettre un terme. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est ton péché qui va t'atteindre. Il finira par t'avoir. Malgré tout ce que Absalom avait fait à David, David n'était pas prêt à le tuer. Ça nous parle quand même. Combien de gens, des fois, nous disent « Oui, mais avec cette addiction, l'alcool m'a tout pris. L'alcool m'a pris ma femme, mon travail. » Ou « Telle autre passion, ou tel autre péché, ou telle autre addiction m'a tout pris, m'a pris ma dignité. » Mais malgré tout ce que ce péché t'a fait, eh bien, tu continues encore à vouloir lui épargner la vie. Je pense que David nous montre justement l'attitude qu'il ne faut pas avoir. Il faut sortir de ces liens affectifs pour essayer de mettre un terme à son péché. La deuxième raison d'ailleurs qui tient à la signification du nom d'Absalom, Absalom veut dire « père de la paix ». Père de la paix, ou celui qui génère la paix. En fait, ici, ça nous parle du fait que le péché a cette capacité de nous faire croire qu'il nous veut du bien. Absalom, si on ne savait pas cette histoire, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Avec le nom qu'il porte, Absalom, père de la paix. Ah bon, toi, père de la paix? Et tu fais la guerre à ton père. Tu es prêt à le tuer. Père de la paix. Vous voyez, ça, c'est exactement le péché. Le péché qui prend des formes amicales. Le péché qui vient vers nous avec des apparences agréables. En te disant, oui, mais tu seras heureux si tu fais ça. Tu seras heureux si tu es comme ça. Tu seras heureux si tu pratiques cela. Il nous promet sans cesse, sans tenir ses promesses. Il te dit, ouais, tu auras la paix. Tu connaîtras le bonheur. Mais le péché ne rend jamais heureux. Si le péché rendait heureux, on l'aurait vu depuis longtemps. On l'aurait vu avec toutes les détresses qu'il y a dans le monde, avec toutes les souffrances qu'il y a, avec toutes les douleurs que notre monde connaît, ce monde qui vit dans le péché. On l'aurait vu depuis longtemps. Ce n'est pas le cas. Le péché ne rend pas heureux. C'est l'un des plus grands mensonges qui soit. Lorsqu'il vient à nous, il se présente en ami en réalité. Il dit voilà. Je suis le père de la paix, je suis le père du bonheur, je suis le père de la joie. Et les jeunes s'y engouffrent. Allez, on fait la fête, on fait des sorties. Et puis après, eh bien, on a le cœur vide. On a le cœur vide, il n'y a plus rien. C'est vrai que, quelquefois, il peut avoir une certaine forme de bonheur dans le péché. Certaines formes de, comment dire, de plaisir dans le péché. Sinon, les gens ne pécheraient pas, on est d'accord. Mais le prix final à payer est trop cher. Encore une fois, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le bonheur, que procure ton péché ne durera qu'un temps. Ça va se tourner rapidement en malheur, tu verras. Tu seras triste. Déjà, tu l'es. Si tu es sincère avec toi-même, tu es déjà triste. Tu es déjà triste. À cause de ce péché, tu es triste. Pourquoi ne pas t'en débarrasser cet après-midi? La Bible dit, point de paix pour le méchant. Point de paix pour le méchant. Il n'y a pas de paix quand on est pécheur. Il ne faut pas croire. La vraie paix, elle appartient à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Jésus lui-même étant le prince de la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. On peut être en plein cœur d'une tourmente et avoir la paix de Jésus dans son cœur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Voyez-vous, David, il aimait Absalom. Pour rien au monde, il aurait souhaité sa mort. Mais la réciproque n'était pas vraie. Si Absalom avait eu l'occasion, la moindre occasion de tuer David, eh bien, il l'aurait fait sans hésiter. Et j'aimerais te dire cet après-midi, détrompe-toi. Détrompe-toi sur les vraies intentions du péché. Détrompe-toi. Ses intentions sont claires et nettes. Il ne veut rien de moins que ta mort. Il veut te tuer. Ton péché veut te tuer. Ton péché veut te séparer de Dieu pour l'éternité. Pour ça, le laisser vivre, ne serait-ce qu'un un moment dans ta vie, eh bien, c'est prendre le risque un jour de le voir se lever et s'attaquer à toi. C'est une illusion de penser que le péché qu'on laisse vivre en nous, nous laissera en paix. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut utiliser les mesures les plus radicales pour s'attaquer à la racine du mal. Et la mesure la plus radicale qui soit, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a donné sa vie à la croix pour nous. Ah, lorsque un pécheur essaye des méthodes ou des différents moyens pour s'en sortir, il essaye peut-être la religion, il essaye ceci, il essaye cela. Mais ça, c'est rien, ça. Ah, ton péché, il rit. Il dit, ah, mais ça, j'ai encore pas mal d'années à passer dans sa vie. Mais lorsque quelqu'un décide sincèrement de venir à Jésus, lorsqu'il a recours au sang de Jésus, là, eh bien, c'est du sérieux. Là, eh bien, les ennemis, ils tremblent. On le voit dans ce texte. Joab, à un moment donné, il vient voir David. Alors, David, il est dans sa chambre, il s'enferme. C'est quand même bizarre, c'est une attitude paradoxale. Il a mobilisé tout le monde. Il y a une organisation qui a été mise en place. Il y a même des espions qui vont, qui viennent, qui rentrent, qui sortent de Jérusalem. Tout a été mis en place avec la providence de Dieu. Et maintenant qu'il a la victoire, eh bien, il est triste. Mais ce n'est pas possible. Il s'enferme dans sa chambre. Et il pleure. Absalom, Absalom, mon fils Absalom. Et Joab, qui vient le trouver, qui dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là, David. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Tu aimes ceux qui ont de la haine pour toi et tu as de la haine pour ceux qui t'aiment. Si on était tous morts et qu'Absalom était en vie, ça t'aurait plu. Voyez-vous ça? C'est souvent nous, c'est souvent l'homme. À savoir que nous aimons ceux qui ont de la haine pour nous. Nous aimons, en l'occurrence ici, c'est le péché. Nous aimons celui qui a de la haine, c'est le péché. Et nous détestons la personne qui nous aime le plus, Jésus-Christ. Combien de gens m'ont dit, mais Jésus, j'en veux pas. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Mais il faut lire un peu la Bible. Hein? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort par amour pour toi? Y a-t-il quelqu'un qui soit déjà mort par amour pour toi? Moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Même la femme avec qui je suis marié, non, je ne pense pas qu'elle soit candidate à ça. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Et il l'a fait pour toi, sans attendre quoi que ce soit de ta part. Sans aucune garantie, il l'a fait. Il a donné sa vie, il est mort à la croix. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Si ça, ce n'est pas de l'amour, alors explique-moi ce que c'est que l'amour. Ah, je sais que ce mot, aujourd'hui, on le tourne à toutes les sauces. Alors, les gens, ils s'aiment, voilà, et puis après, ils se séparent. Ah, même, voilà, les gens aussi, ils sont capables... On parle des familles aujourd'hui, hein, on s'aime, voilà, c'est de l'amour aussi, hein. Ce genre de famille, on va se paxer, tout ça, machin. Dieu nous montre l'amour, le véritable amour. celui qu'il a manifesté lorsque Jésus est venu, lorsqu'il a donné sa vie pour nous. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que tu sois dans cette salle pour donner son fils Jésus-Christ. Il l'a fait sans aucune garantie. Parce que quelque part, il espérait que tu sois raisonnable. D'ailleurs, il va entendre cette parole. Il va entendre ce que j'ai fait pour lui et il va me donner sa vie. C'est ce que le Seigneur se dit cet après-midi. Absalom, je vais finir par cette dernière pensée. Absalom représente le péché. Si Absalom n'avait pas été suspendu, donc au verset 9, je vais vous le relire, verset 9, chapitre 18, il nous est dit donc, le mulet donc d'Absalom pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre. Si Absalom n'avait pas été suspendu, si Absalom n'avait pas été en quelque sorte immobilisé dans les branches du térébinthe, on aurait eu du mal à le tuer. On aurait eu du mal à le supprimer. Ah, il se serait enfui. Il serait parti. Vous savez, un jour, un homme a été aussi suspendu entre terre et ciel. Le but, ce n'était pas qu'il ait fait quoi que ce soit de mal, non. Mais le but était aussi d'immobiliser tout le péché du monde entier. Un peu comme un aimant qui attire à lui, voilà, tout ce qui est autour. Il est monté sur la croix. Il était entre le ciel et la terre, suspendu par les clous. Et là, il va aussi immobiliser le péché, afin de lui donner le coup fatal. La Bible dit, Dieu l'a fait pécher pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Tous les péchés de l'humanité sont venus sur Jésus à ce moment-là. Et c'est là qu'il donnera le coup de grâce au péché. Vois-tu, mon ami? Tu peux aussi décider d'être libre cet après-midi. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi à la croix. Il est mort. Il a été suspendu. Il a pris ton péché, il a pris mon péché. Ah, il a pris ton péché, mais si tu veux le garder, qu'est-ce qu'il y peut? Il ne peut rien. Si quelqu'un veut garder son péché, si quelqu'un aime son péché, si quelqu'un se plaît dans son péché, mais qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse? Il ne peut rien faire de plus. Il a déjà donné sa vie. Il ne peut plus rien faire de plus. C'est pour ça, cet après-midi, alors que nous sommes là, le Seigneur aussi est là. Et c'est ça le plus important. Il est urgent, mon ami. Toi qui entends ce message, et toi dont la conscience est interpellée, que tu décides de faire la paix aujourd'hui avec le Seigneur. Il ne faut pas faire la paix avec le péché. Non, il faut faire la paix avec Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Par contre, fais la guerre au péché. Décide de mettre un terme à ton péché cet après-midi. Rejette-le, sépare-toi de lui, qu'il disparaisse à tout jamais de ta vie, afin que Jésus, le roi de gloire, celui qui est vraiment digne de régner dans ta vie, puisqu'il a quand même donné sa vie pour toi, eh bien, il puisse venir dans ta vie. C'est seulement à ce moment-là que tu seras au-dessus de tes angoisses, tu seras au-dessus de tes craintes, tu seras au-dessus de tes addictions, tu seras au-dessus de tes passions et de ton péché, si seulement Jésus règne dans ton cœur. On va s'incliner simplement, on va prier le Seigneur.